quand votre ville fait boum.
Une semaine sur AZF et tout ce qui fait boum.
Il est 10h17.
Retour sur quelques catastrophes industrielles marquantes.
L'armée italienne sont venues faire évacuer deux villages. Attention, zone infestée, et toute cette zone a été isolée par des clôtures.
Journal télévisé d'Antenne 2, 27 juillet 1976.
L'accident s'est produit le 20 juillet dans une usine chimique. Une réaction que l'on contrôle mal quand on en a bien contrôlé 1000. La température soudain monte et une cuve de 2000 litres explose, libérant un nuage de trichlorophénol. Aujourd'hui, deux semaines plus tard, les ouvriers qui fabriquaient dans cette usine des essences, du parfum, des cosmétiques, des désherbants, ont dû partir. Le village est vide, mort. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux.
1976, en Italie, la catastrophe de Seveso.
Nous sommes le 10 juillet 1976, dans l'Italie du Nord, dans la plaine Lombarde, un peu au-dessus de Milan. À Seveso, l'usine chimique IC Messa appartient à la compagnie suisse Givaudan. Et ce jour-là, dans le hangar B, il y a la surchauffe d'un réacteur qui fabrique du trichlorophénol. Et la cuve 101 engendre l'émission soudaine d'un nuage chimique rouge. En fait, quand on dit émission soudaine, oui, ça a été, c'est pas suite à une explosion, hein, et il y a eu plusieurs nuages. Suite à l'accident, ben, les feuilles des arbres commencent à jaunir et on voit beaucoup d'animaux, en particulier des oiseaux, y compris des animaux domestiques, qui meurent par dizaines. Ça, c'est le 10 juillet. Le 12 juillet, soit deux jours après, le travail reprend à l'usine. S'ensuit quand même une grève du personnel le 16 juillet et l'usine ferme du coup jusqu'au 18. Les laboratoires Hoffmann-Laroche, et les laboratoires qui sont propriétaires de l'usine, annoncent aux autorités que en fait c'était une émission de dioxine qui s'est échappée du réacteur. Jusqu'au 23 juillet, la population continue à vivre dans un milieu complètement contaminé. Rien ne se passe. Et puis, c'est un centre de recherche médicale de Bâle, en Suisse, qui donne une alarme. Il propose d'évacuer la population, de détruire les maisons et d'enterrer l'usine. Alors là, on passe à un degré supérieur. Du coup, le même jour, l'armée entoure de barbelés 12 hectares de terrain. Le 26 juillet, soit trois jours après, et les premiers habitants sont évacués. Dans la zone, il y a 225 personnes qui sont sommées de quitter leur maison. Et puis les jours suivants, la zone augmente en taille et puis on en arrive à 500 nouvelles personnes évacuées.
Au-delà de ce barrage militaire, il est totalement interdit de passer. D'ailleurs, les 300 habitants de cette zone ont été évacués par précaution.
Journal télévisé d'Antenne 2, 5 août 1976.
Car on ne sait toujours pas, un mois après, si le nuage de gaz qui a été lâché par l'usine d'IG Messa toute proche est toxique pour l'homme. En revanche, on était absolument certain que la dioxine, qui est un composant chimique découvert dans ces champs, est mortelle pour l'animal. En effet, un gramme de dioxine suffit à tuer 1000 tonnes de rats. Voilà l'étendue du problème.
Problème d'autant plus grave qu'aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas très bien maîtriser les réactions obtenues avec ce produit, ce qui explique l'accident très grave de l'usine de Milan. Les champs autour de l'usine sont touchés, entourés de barbelés, mais on ne sait pas la quantité et la composition exacte du produit qui s'est répandu ici.
Ben, à l'époque, la connaissance de la toxicité de la dioxine, c'est un peu limité parce que ben, on n'a pas vraiment trop cherché. Donc, pudiquement, on va dire, en l'absence quasi complète de données scientifiques. On sait en revanche que l'une des substances qui a été libérée fait partie des composantes des défoliants utilisés au Vietnam par l'armée américaine, le fameux Agent Orange, tristement célèbre. Donc un bilan a posteriori, 0,6% des zones concernées sont atteintes de chloracné. La chloracné, c'est des problèmes de peau. Et ça fait en gros 200 personnes, essentiellement des enfants. Aucune ne décède. Bah, y a quand même une victime indirecte, c'est le directeur de l'usine, Paolo Paoletti, parce qu'il a été assassiné par Prima Linea, un groupe dans la mouvance des Brigades Rouges, en 80, soit 4 ans après. Par contre, là où les effets de la catastrophe sont énormes, c'est sur les animaux et sur les terres. Donc, dans un premier temps, 3300 animaux domestiques meurent intoxiqués, et on ne parle pas de la faune sauvage. Et du coup, il faut abattre près de 80 000 têtes de bétail. Parallèlement, les sols agricoles et les maisons nécessitent de lourds travaux de décontamination.
Mais le plus gros problème pour l'avenir, ce sont tout de même...
Reportage de la radio-télévision suisse romande.
Les déchets et les pièces détachées qui se trouvent encore, pour certaines en tout cas, à l'intérieur de cette usine. C'est ici, dans cette usine, qu'a eu lieu l'accident le 10 juillet 1976. Chaque jour, des ouvriers en combinaison spéciale démontent pièce par pièce ce qu'il reste du deuxième réacteur. Et il faut dire que ces déchets sont 125 000 fois plus contaminés que, par exemple, la terre qui a été raclée à la surface dans les zones proches de Seveso.
Ces 10 travaux de décontamination commencent 6 mois après l'accident et ils dureront plus de 5 ans. Le cœur de la zone reste condamné, du coup, durant 6 ans derrière des barbelés. Et en plus, ce cœur a été utilisé comme zone de dépôt pour des déchets des autres zones. Jusqu'en 1982, et l'usine est démantelée à ce moment-là, et arrive le fameux scandale des barils, ces vaisseaux. Sur cette zone, 41 barils sont scellés. En août 82, les déchets chimiques qui contiennent de la dioxine sont enlevés du réacteur pour pouvoir démanteler les installations. Et ces fameux 41 fûts sont transférés et envoyés par la route dans une autre usine. En principe, leur destination était Bâle pour y être incinérés. Mais par contre, leur trace se perd après le passage de la frontière à Vintimille et ils disparaissent quelque part en France. On les découvrera en mai 1983 dans un abattoir désaffecté où ils avaient été déposés comme ça.
À Guilcourt-le-Sard, devenu depuis hier le village le plus célèbre de France depuis qu'on y a découvert les 41 fûts de dioxine provenant de ces vaisseaux. Situé près de Lens, dans
ils seront finalement incinérés en novembre 1985. Par contre, il y avait aussi les boues de ces vaisseaux, parce qu'en plus de ces déchets-là de dioxine pure, il y avait quand même pas mal de terre, et en particulier dans les différentes zones autour, incluant l'usine et autour de l'usine, pas mal de terre et donc des boues pleines de dioxine. Eh bien, il y a une partie de ces boues qui ont été déposées dans les ateliers de l'ancienne prison de Haguenau. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est un IUT, et les boues sont toujours en place. Et puis, il y en a d'autres qui ont été livrés gratuitement pour servir de remblai et de terrasse pour de nombreux particuliers. Donc ça a fait quand même un gros scandale, cette histoire des boues. Donc, suite au scandale de la gestion de la catastrophe sur le moment, plus après de la suite avec les fûts Seveso, les États européens décident de se préoccuper de renforcer les contrôles des pouvoirs publics sur les activités industrielles présentant des risques technologiques majeurs. Et donc, est créée la fameuse directive Seveso en 82, et s'ensuit la directive Seveso 2 en 2000 et Seveso 3 en 2012.
Canal Sud.
Pas de panique, pas de panique.
Non, pas de panique.
Encore plus violente.
Tranquillement, et tout d'un coup tout s'est éteint. Et il y a eu d'un coup une explosion énorme et tout l'hôpital a été soufflé. Il y a les murs qui sont tombés, les vitres qui ont explosé.
Pour les 15 ans de l'explosion d'AZF, du 19 au 26 septembre, à Canal Sud et à La Chapelle à Toulouse, une semaine sur AZF et tout ce qui fait boum.
Pas de panique, pas de panique.
Plus d'infos, canalsud.net.
Retour sur quelques catastrophes industrielles marquantes.
La suite.
Il était 2 heures hier matin. Les 500 000 habitants de Bhopal dormaient et c'est en silence que la mort s'est abattue sur eux. Hier soir, on croyait que cette tragédie avait tué 375 personnes. Mais toute la nuit, les sauveteurs ont fouillé les maisons, une par une, découvrant de nouveaux morts surpris dans leur sommeil. Aujourd'hui, les médecins avancent le chiffre de 1200 morts. mais ce chiffre n'est pas définitif, hélas. Sur les 200 000 personnes intoxiquées, 3 000 au moins sont gravement atteintes, toutes ne survivront pas.
Un chiffre pas définitif, nous disait le journal télévisé de la deuxième chaîne ce 4 décembre 1984. Le journaliste ne croyait sûrement pas si bien dire. Officiellement, la catastrophe de Bhopal a fait 3828 tués. Puis en 1989, on a revu ce bilan à 3598 morts. En 1995, les autorités indiennes ont finalement officialisé le chiffre de 7575 décès. En fait, tout dépend évidemment de la manière de compter. Si l'on s'en tient à la seule nuit où a eu lieu la fuite de gaz, il faut parler déjà de 3500 morts au moins. Mais hélas, la plupart des décès se sont produits dans les jours, dans les mois, dans les années qui ont suivi. Les associations des victimes, elles, évoquent entre 20 000 et 25 000 morts. La catastrophe de Bhopal. Bhopal, c'est la capitale du Madhya Pradesh, un état situé dans le centre de l'Inde. En 1978, à la demande expresse de l'état central indien, la Union Carbide Corporation, qui est alors une des plus grosses entreprises chimiques américaines, y a ouvert une usine de pesticides. Celle-ci est située à 5 km de la ville. Elle va y produire du thémir et du sévin ou sévine, qui sont essentiellement composés d'isocyanate de méthyle ou MIC. Alors c'est un produit extrêmement dangereux, dérivé du phosgène, qu'on connaît bien, le fameux gaz moutarde, et qui doit être stocké sous forme liquide dans des conditions extrêmement rigoureuses si on ne veut pas qu'il se transforme en un gaz plus lourd que l'air et extrêmement toxique, aussi toxique que le chlore. Dans cet état très pauvre de l'Inde, la présence de l'usine va multiplier la population de la ville. Elle passe de 385 000 habitants en 1971 à 671 000 en 1981, à peine 3 ans après l'ouverture de l'usine, et à plus de 800 000 en 1984. Les plus pauvres de ces nouveaux habitants vont se retrouver dans un grand bidonville, le Kasi Camp, situé entre l'usine et la ville elle-même. Donc, en 1984, l'usine n'est absolument plus isolée. Elle est au cœur d'un tissu urbain dense, les constructions les plus proches s'accrochant carrément au grillage du site. Dès ses débuts, le site de Bhopal va connaître de très nombreux dysfonctionnements et même déjà quelques accidents, dont certains très graves. Un immense incendie, dès 1978, et entre 1981 et 1983, au moins 5 fuites de gaz qui vont faire un mort et 47 blessés. En 1982, un rapport d'inspection pointe 10 déficiences sérieuses dans le système de sécurité de l'usine. On sait qu'en 1984, au moins 2 de ces 10 déficiences ne sont toujours pas corrigées. La catastrophe qui s'annonce n'est donc pas une surprise, et en tout cas pas pour les propriétaires de la Union Carbide, ni pour les autorités locales comme nationales. Une partie de la presse et de l'opposition a déjà tenté d'alerter l'opinion et l'État sur la dangerosité du site de Bhopal. Alors évidemment, derrière ce laisser-faire, il y a les relations troubles qu'entretient l'entreprise américaine avec le personnel politique indien, hein, faveur, sûrement même corruption, mais il y a aussi des choix politiques assumés. L'Inde a un fort besoin en pesticides pour soutenir une agriculture industrielle, la seule qu'elle croit capable de nourrir une population qui est en pleine explosion démographique dans le début de ces années 80. D'ailleurs, il va y avoir un épisode tout à fait désastreux au regard de la suite. En 1982, l'usine s'avère déficitaire et l'Union Carbide va évidemment, en bonne entreprise capitaliste, envisager la fermeture. Le gouvernement indien va tout faire pour l'empêcher et il va donc accepter que l'Union Carbide réduise drastiquement les frais d'exploitation du site, ce qu'il va faire en licenciant notamment une partie du personnel qualifié pour les remplacer seulement en partie par des employés moins bien formés. Ainsi, c'est dans une usine tournant au ralenti, partiellement fermée, avec des effectifs très réduits, avec des systèmes de sécurité tous défaillants ou en réparation, que va se jouer le drame. Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 décembre 1984, de l'eau pénètre dans la cuve E610 de l'usine, provoquant une réaction chimique. Le manomètre indique bien une surpression dans ce réservoir, mais les employés ne s'en inquiètent pas immédiatement, ils sont habitués à ces appareils de contrôle qui s'affolent pour rien, faute d'entretien. La température monte, le couvercle en béton du réservoir se fend, puis la valve de sécurité explose. C'est ainsi que 42 tonnes d'isocyanate de méthyle, soit le double du stockage normalement autorisé, s'échappent et se répandent sur Bhopal.
Vers minuit, il y a eu un nuage. On aurait dit un nuage de piment rouge. Nous nous sommes rendus compte que du gaz s'échappait de l'usine d'Union Carbide. Nous avons commencé à pleurer lorsque nous nous sommes rendus compte que ce gaz arrivait jusqu'à notre voisinage. Nous habitons assez loin de l'usine. Nous nous sommes inquiétés de ce qui avait pu arriver à notre fille qui vivait plus près de l'usine. Si la situation était aussi mauvaise ici, que pouvait-il bien se passer là-bas? Mon mari m'a dit, arrête de pleurer. Il m'a dit, allons chercher notre fille. Je lui ai demandé, et comment? Il m'a dit, allons à l'hôpital Hamidia. Lorsque nous sommes sortis de l'hôpital, nous étions en larmes. Des hindous et des musulmans rassemblaient les corps que les médecins dégageaient en grand nombre. Il y en avait qu'on mettait dans des jeeps. Il y en avait qu'on mettait dans d'autres véhicules. Il y avait des corps à côté de la porte et tout le long. Mais nous n'avons vu ni notre fille, ni notre petite fille, ni notre gendre. Nous n'en pouvions plus de voir tout ça. Et puis nous avons vu un groupe de gens là-bas. Et là, nous avons vu notre fille et notre gendre, les yeux recouverts d'un tissu. Notre petite fille était enveloppée dans un drap humide, abandonné près de la citerne.
Évidemment, on l'imagine aisément, c'est le chaos à Bhopal. Personne n'a jamais été informé des effets possibles de l'isocyanate de méthyle, pas même les 350 médecins de la ville, totalement dépassés. Il faudra des jours aux sauveteurs, aux militaires, pour ramasser les milliers et les milliers de corps. Dans les rues, dans les habitations, dans les trains qui passaient par là. Les incinérations, les enterrements se succèdent à un rythme effréné. Impossible de pratiquer correctement dans ces conditions les rites funéraires. Immédiatement après le drame, on estime que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont malades suite à leur exposition au gaz. En réalité, on sait aujourd'hui que c'était des centaines de milliers de personnes. Et puis, d'emblée, dès cette première nuit, commence un phénomène qui, hélas, va devenir courant à Bhopal, la naissance d'enfants handicapés.
Avec une multinationale, il y a des choses qui sont simples et d'autres qui ne le sont pas. Une chose simple, par exemple, c'est de se partager les bénéfices entre divers partenaires. Une chose qui n'est pas simple, par exemple, c'est de désigner le responsable d'une catastrophe dans laquelle cette multinationale est impliquée. Généralement, c'est un sous-fifre qui endosse cette responsabilité, tandis que la multinationale le traite comme un moins que rien, pas grand-chose.
C'est à peu de choses près ce qui va se passer. La Union Carbide va en effet pendant des années essayer de charger ses employés, hein, suggérant même un sabotage. Elle va essayer de charger sa seule filiale indienne et elle va utiliser toutes les procédures, toutes les ficelles judiciaires pour ne pas avoir à assumer ses fautes. Alors je vous fais grâce du détail des dizaines d'années de batailles judiciaires, mais sachez qu'elle va y arriver très bien et qu'elle va être aidée en cela par l'État indien qui a joué un rôle qu'on dira, pour être gentil, ambigu. À ce jour, aucun représentant de l'Union Carbide ne s'est jamais présenté devant la Cour indienne de justice. Le propriétaire de l'entreprise de l'époque, il s'appelle Wes Anderson, est mort de vieillesse en 2014 sans jamais avoir été jugé, ni en Inde, ni aux USA. L'Union Carbide a versé en 1989 470 millions de dollars suite à des négociations avec l'État indien qui était censé, je dis bien censé, représenter les victimes. Cette somme tout à fait dérisoire a servi à indemniser une partie de ces victimes en effet, qui ont reçu quelques centaines d'euros, c'était le prix de leur santé perdue. Mais en fait la plupart n'ont jamais touché la moindre roupie. Aujourd'hui, l'Union Carbide n'existe plus en tant que telle. L'entreprise a été reprise par Dow Chemical, c'est une autre multinationale, mais cela ne change rien puisque Dow Chemical refuse également toute responsabilité, elle refuse toujours d'indemniser correctement les victimes, elle refuse également de décontaminer le site. C'est ce que dénonce la rappeuse indienne Sophia Ashraf dans ce titre tout récent, Dow vs Bhopal, a toxic rap battle. You gotta move on and fuel on and grow strong, this blame game has gone on for too long. Oh my god, let bygones be bygone and done with. I'm tired all this fumbling. Why sing that old song again? Why sing that old song again? Sing that old song again. Why sing that old song again? Sing that old song again. Why sing that old song again? It's set to the tune of disaster, catastrophe. Beacon or reset for fester disastrophe. Hard to remember the deaths of December, rekindling the embers of your biggest tragedy. I think you'd agree. Go, 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 go work, go work, but I'll say no more apples in this industry now. Go, 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 go work, go work, but I'll say no more apples in this industry now. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la catastrophe de Bhopal, elle démarre une nuit de décembre 1984, mais elle ne s'arrête pas là. Elle se poursuit encore aujourd'hui, plus de 30 ans après cette fuite de gaz. Des centaines de milliers de personnes souffrent encore des séquelles de cette nuit-là. L'eau de la région est toujours contaminée, et elle l'est d'autant plus que le site n'a jamais été démantelé, il n'a jamais été décontaminé. Il y a 450 tonnes de déchets toxiques qui gisent encore à ce jour dans l'usine désaffectée et rouillée, qui continue de contaminer les nappes phréatiques. Union Carbide et Dow Chemical ont littéralement abandonné le site en même temps qu'ils ont abandonné Bhopal. Ce que vous entendez là, c'est la manifestation qui a eu lieu en 2014 pour les 30 ans de l'accident. Cette manifestation a lieu en fait tous les ans, car si la catastrophe se poursuit à Bhopal, la lutte aussi. Des gens continuent à se battre, à lutter contre la fatalité, contre la loi du plus fort. Des procédures judiciaires très lourdes sont toujours en cours. Et c'est pour ça qu'une campagne internationale pour la justice à Bhopal continue d'être animée. Vous pouvez consulter son site web, bhopal.net. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous ne manquerez pas de sources. Je vous donne quand même le titre d'un documentaire, Dylan Ziff. Bhopal, le procès qui n'a pas eu lieu. Il date déjà de 2004, mais c'est de là qu'est tiré le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, celui de cette rescapée qui s'appelle Amida Bi.